Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Audrey Guélou.
Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1 Écrire sur le web. Alors nous poursuivons notre session de présentation des étudiants et étudiantes de l'UTC. On a commencé à 14h30 donc par l'exposé de 5 étudiants et étudiantes qui nous ont présenté leur travail sur le thème des moteurs de recherche et des robots conversationnels. Alors pour rappel, les étudiants de WE1 réalisent chaque semestre un projet en groupe qui consiste à mettre en ligne un dossier thématique qui sera composé d'articles et de fiches de lecture autour d'une problématique technologique. Logique du web. Alors on va continuer à présent avec une seconde présentation et je suis pour ça avec Antoine et Arthur. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez choisi de réaliser votre dossier sur le thème des enjeux juridiques et éthiques de ce que l'on appelle donc les intelligences artificielles génératives. On va vous exposer, vous écouter, nous présenter ce que cela veut dire et puis nous présenter votre exposé donc à trois voix sur ce sujet. Les autres étudiants du TD de l'UV donc sont toujours à l'écoute de l'émission et ils vont vous écouter et puis vous poser quelques questions sur Mattermost. Je vous relayerai donc ces quelques questions au micro. Alors Antoine, si tu es prêt, eh bien écoute, tu vas commencer par nous parler des impacts de l'intelligence artificielle générative sur la création de contenu. Si tu es prêt Antoine, c'est à toi.
Au fait, on va vous parler de l'intelligence artificielle. Et d'abord, quelle est la problématique? La problématique est que en quoi ces intelligences artificielles impactent sur la vie des auteurs et quels sont les dangers pour l'information et les données personnelles? En fait, avec l'avènement des intelligences artificielles génératives, soulève de nombreux défis juridiques et éthiques. Leur impact sur la création de contenu est significatif, touchant des domaines tels que l'écriture, les arts visuels et la musique. Et bien que ces intelligences artificielles offrent des avantages en qualité d'efficacité, des questions sur l'authenticité et la propriété intellectuelle se posent, menaçant les droits des auteurs. De plus, la manipulation des données personnelles par ces IA soulève des préoccupations quant à leur protection de la vie privée et du droit à l'oubli. Enfin, l'utilisation des IA génératives pour créer des contenus trompeurs tels que les deepfakes alimente la désinformation et exige des moyens de détection et de prévention. Face à ces enjeux, il est crucial de développer des mécanismes pour garantir l'authenticité, protéger les droits, préserver la vie privée et lutter contre la désinformation. Et l'impact sur l'intelligence artificielle sur la création de contenu, selon le rapport de synthèse France Intelligence Artificielle publié en mars 2017, l'impact de l'intelligence artificielle générative sur la création de contenu est significatif et touche plusieurs domaines, comme je viens de le dire, des arts de l'écriture, des arts visuels, de la musique. Ces IA génératives, comme le GPT-3, ont la capacité d'apprendre à partir d'un vaste ensemble de données de générer du contenu similaire à la création humaine. Dans ce rapport sur France Intelligence Artificielle, l'avantage majeur des intelligences artificielles dans la création de contenu réside dans sa rapidité et son efficacité. En effet, l'utilité des IAG peut s'expliquer par la capacité de générer des idées, des exemples de brouillon ou encore des ébauches de manière automatisée, ce qui accélère le processus de création. Par exemple, les écrivains, en utilisant des intelligences artificielles génératives pour générer des paragraphes d'introduction afin de s'y inspirer, les designers peuvent obtenir des propositions de design par le biais des IAG et les artistes peuvent aussi obtenir des esquisses et des compositions basées sur leurs préférences. Malgré tout l'intérêt que peut porter l'intelligence artificielle dans le domaine de la création de contenu, l'utilisation des IAG soulève des questions sur l'authenticité, sur la propriété intellectuelle et aussi sur le droit d'auteur, par exemple. Étant donné que ces modèles sont entraînés sur des ensembles de données préexistants, il est alors probable de considérer une création dérivée d'une intelligence artificielle générative comme œuvre existante, ce qui peut poser le problème de plagiat et de droit d'auteur. Comme il est stipulé dans le document cité dans le rapport France Télévisions, il est noté que la notion de droit d'auteur elle-même pourrait être bouleversée par l'intelligence artificielle, ce qui peut être considéré comme auteur d'une œuvre élaborée en tout ou une partie par une intelligence artificielle. Ainsi, face à ces questionnements, il est important de respecter les lois sur la propriété intellectuelle et de prendre des précautions pour garantir que le contenu généré par ces IAG est original et ne viole pas les droits de tiers.
Mais alors, à qui appartiennent les droits d'auteur de l'œuvre produite ? À l'artiste dont l'IA s'est inspirée ou à l'utilisateur qui a lancé la requête de création ? Pour l'Union européenne, le droit de fouille est autorisé sur toutes les plateformes, sauf si l'auteur s'y oppose expressément. C'est l'utilisateur de l'IA qui est responsable de l'œuvre créée, mais il n'est pas considéré comme un auteur à part entière. Et sans droit d'auteur, il ne peut pas gagner d'argent grâce à sa création. Aux États-Unis, en revanche, la loi diffère. Les IA ont aussi un droit de fouille, mais il doit être utilisé équitablement. C'est au juge de décider si la création est assez différente de l'original. Face à l'essor des IA, l'Union européenne veut proposer une nouvelle directive pour mieux réguler les œuvres qu'elles produisent. Mais tout le monde n'en est pas encore là. Pour connaître la loi de chaque pays en matière de droits d'auteur et d'IA, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a mis en place une liste qui recense les différentes stratégies juridiques des États.
En fait, ce reportage qui vient de passer, c'est un reportage de TV5, de l'émission 7 jours sur la planète. En continuant de parler de l'intelligence artificielle sur la création de contenu, on peut penser que l'authenticité sur la création se pose lorsque le contenu généré par ces IAG est utilisé pour des fins de diffusion ou de publication. Certains tweets du réseau social Twitter sont des parfaits exemples avec des bots. C'est quoi des bots ? C'est des logiciels autonomes capables d'aimer une publication ou même de générer un commentaire. Ce qui met l'accent sur l'authenticité des données sur les réseaux et de qui elles parviennent. Donc il serait difficile de déterminer si le contenu a été créé par un humain ou par une IA. Ce qui peut aussi affecter la confiance du public. Des préoccupations similaires se posent avec l'utilisation des IAG dans la création d'images et de vidéos, où il est possible de générer des contenus trompeurs ou des deepfakes convaincants. Pour atténuer ces préoccupations, des outils et des techniques sont en développement pour vérifier l'authenticité du contenu généré par les IAG et marquer les contenus produits par une IA. Les chercheurs travaillent également sur les méthodes de régulation et de certification pour garantir que le contenu généré par les IAG respecte les normes éthiques et légales comme définies par la Convention européenne sur les droits d'auteur, brillamment décrit par Ansara Schoenberg dans l'intelligence artificielle et droits d'auteur. C'est un livre paru en 2022. Et en résumé, l'utilisation des IAG dans la création de contenu offre des avantages en termes de rapidité et d'efficacité, mais soulève également des questions sur l'authenticité, le respect des droits d'auteur et la confiance du public. Il est crucial de développer des mécanismes appropriés pour garantir que le contenu généré par les IAG est original, respecte les droits et propriétés intellectuelles et répond aux normes éthiques.
Merci Antoine, merci pour cette partie qui nous a donc bien expliqué alors ce que faisaient déjà les intelligences artificielles génératives, donc générer du contenu, des images, des vidéos, des textes à partir d'une demande, de ce qu'on appelle un prompt. On va faire une demande, génère-moi une peinture d'un studio de radio à la façon du peintre Goya. Voilà. Alors par exemple, tu nous as parlé de alors il y a plusieurs problématiques que tu as évoquées et donc tu as notamment parlé tu as insisté sur le fait que ces outils-là peuvent générer des problèmes en termes de droits d'auteur, de propriété intellectuelle, c'est-à-dire voilà, les droits qui vont s'appliquer sur une image générée par, disons, Midjourney, par exemple, qui est un exemple d'intelligence artificielle qui permet de générer des images. Alors si, par exemple, si je demande à Midjourney de générer voilà, une peinture du studio de radio, si je veux placer cette illustration sur mon site web personnel, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que faire pour respecter la loi en termes de droits d'auteur ? C'est-à-dire, est-ce que je peux dire que c'est une image qui sera apportée à mon nom ? Est-ce que je dois dire que c'est fait par Midjourney ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a un cadre juridique déjà établi ou c'est dans le flou en ce moment ?
Au niveau européen, et actuellement, ils travaillent sur des cadres juridiques. Et je sais que, comme je l'ai dit dans le document d'intelligence et droits d'auteur, il y a des normes qui existent actuellement au niveau européen pour chaque publication, pour reconnaître c'est quoi déjà une œuvre il faut définir à la fois c'est quoi une œuvre.
Et oui.
Et dans quel cas l'intelligence artificielle peut avoir les droits d'auteur. Mm-hmm. Parce que aujourd'hui, comme vous venez de dire, avec Midjourney, on peut générer des images facilement. Mais si on doit le publier en tant qu'un autre nom, il faut bien signaler de qui ça provient. Et comme on l'a eu, par le biais des Midjourney et tout. Et c'est ça, en fait. C'est pas bien défini dans le contexte général, parce qu'il y a des législations différentes selon les parties du monde, aux États-Unis, en Europe, c'est différent. Et on n'a pas la même définition de la notion d'œuvre.
Oui, d'accord. Ok, merci Antoine pour cette réponse complète. Alors, il y a plusieurs questions qui arrivent sur Matermos, mais je pense qu'elles vont s'appliquer à la suite de votre exposé. Donc, ce sera peut-être pour vous, Antoine et Arthur. On va passer donc à la partie d'Antoine. Deuxième Antoine. Antoine, tu vas nous parler du traitement de la conservation de données personnelles qui sont utilisées pour alimenter ces intelligences artificielles génératives. Si tu es prêt, Antoine, c'est à toi.
Effectivement, le problème du droit d'auteur peut également poser question sur le traitement des données par les IA génératives, plus particulièrement des données personnelles qui sont très sensibles. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de savoir si nos données sont encore protégées. En effet, il est très simple de constater l'importance des données personnelles dans l'économie de notre société. Tout le monde sait que ces données sont censées être notre propriété et sont révélatrices de notre identité. Mais peu de monde sait réellement de quelle façon nos données sont traitées et conservées. Depuis 5 ans en France maintenant, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est un organisme français chargé de réguler les données personnelles, a mis en place le RGPD. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est le Règlement général sur la protection des données qui vise à mieux encadrer la protection des données, en instaurant un consentement vis-à-vis du traitement renforcé des données personnelles. On peut avoir un sentiment de sécurité concernant nos données personnelles suite à cette initiative, mais c'est sans compter sur l'application d'une directive européenne, la directive 2016-680, aussi appelée police-justice, qui déclare que si les données sont nécessaires à un traitement judiciaire, alors il n'est pas nécessaire de demander un consentement. C'est-à-dire que, par exemple, si une IA générative permet de générer un portrait robot de suspect, les données sont nécessaires à un traitement judiciaire et il n'est pas nécessaire de demander un consentement aux personnes dont le visage a été utilisé pour entraîner l'IA.
Ah, la mission de la CNIL, Bruce, rappelons-le, c'est de veiller au respect de notre vie privée. Alors, depuis Internet, d'aucuns parlaient déjà de mission impossible. Et bien voilà que pour ces 45 ans, la Commission s'attaque aux intelligences artificielles génératives. Comprenez, celles qui génèrent des contenus, que ce soit sous forme de texte pour ChatGPT ou pour Bard, son concurrent chez Google, ou Midjourney pour les photos, ou bientôt les vidéos. Et la musique, un nouveau service par semaine environ. Autant vous dire que c'est assez compliqué à suivre. Faut-il pour autant renoncer à nos droits les plus fondamentaux ? Pas question, répond donc la CNIL qui annonce une nouvelle équipe de 6 chercheurs entièrement dédiés à ces IA. Alors vous croyez vous amuser en demandant à ChatGPT d'écrire à votre place un petit poème personnalisé pour votre maman pour la fête des mères qui approche, par exemple. Oui. Que deviennent ces infos hautement... C'est une idée, ça peut être pas mal. Que deviennent ces infos hautement privées que vous allez confier à ChatGPT ? Aucune réponse jusqu'à aujourd'hui, d'où ces enquêteurs dépêchés par la CNIL pour clarifier quelques points.
Vous venez d'écouter un extrait de BFM TV présenté par le journaliste Benoît Galeret. Donc ça nous montre que la CNIL témoigne d'un grand intérêt envers les intelligences artificielles vis-à-vis de la protection des données personnelles. Cet extrait a été publié il y a 15 jours, donc il est apparent que l'intelligence artificielle générative est une technologie toute nouvelle et qu'il est nécessaire de réfléchir à une réglementation. En plus de cela, la majorité des IA génératives aujourd'hui collectent directement des données sur Internet. Et durant cette étape de collecte, les données sont triées et classées de façon automatisée. C'est ce que l'on appelle le big data. Durant ce processus, bien souvent, les données perdent une partie de leurs informations, ce qui les rend très difficiles à contrôler. Dans le même exemple de l'IA qui génère des images, on peut partir du postulat que les données utilisées ne sont plus complètes et ne permettent plus d'en retrouver leurs propriétaires. Les propriétaires de ces données n'ont souvent même pas conscience que leurs données sont utilisées. Et ça, c'est un gros problème. Puisque, justement, le droit à l'oubli en France, qui est un droit consistant à pouvoir demander aux responsables du traitement d'effacer les données, étant donné le fait que les données sont incomplètes, il est très difficile pour le propriétaire de ces données de savoir justement que ces données sont bien à lui, mais également de le justifier pour pouvoir exercer ce droit. Les IA génératives sont des modèles, des algorithmes, qui apprennent des données que l'on leur fournit, et ce, de façon irréversible. Lorsqu'une intelligence artificielle apprend à l'aide d'une donnée, cette donnée contribue à l'apprentissage de l'IA. Et pour que l'IA oublie cette donnée, il serait nécessaire de tout réapprendre depuis le départ en excluant cette donnée. Ou alors en enregistrant l'état du modèle avant chaque apprentissage, pour pouvoir restaurer une sauvegarde. Ce qui n'est pas réalisable non plus, compte tenu de l'espace que cela prendrait. En résumé, bien que les IA génératives nous offrent de nouvelles opportunités, il est essentiel de prendre en compte les problématiques liées à la collecte des données et à la dégradation de ces données. Une réflexion approfondie et des réglementations adaptées sont nécessaires pour assurer une utilisation responsable de ces nouvelles technologies.
Merci à toi Antoine pour ce portrait effectivement de plusieurs problématiques qui s'ouvrent avec ces nouveaux outils concernant la protection des données personnelles et puis voilà toutes ces questions autour de qu'est-ce qui va alimenter ces modèles-là, quel contenu, quelles données personnelles vont alimenter ces modèles statistiques d'IA générative. Et alors tu vois, il y a Aria par exemple qui se demande s'il y aurait un moyen de garantir qu'une IA générative ne se base que sur du contenu sous licence libre, par exemple. Alors, tu viens de le dire tout en dernier, en disant que ce serait très compliqué de faire oublier certaines données à des IA génératifs. Il faudrait tout recommencer depuis le début. Mais donc là, en plus, ces outils-là sont développés dans différents pays avec des juridictions différentes, comme tu le disais, Antoine, juste avant, hein, en disant voilà, une œuvre ne sera pas protégée avec les mêmes lois concernant la propriété intellectuelle selon si on se trouve aux États-Unis ou en France. Bref, il y a voilà, des lois différentes, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, voilà, en Europe, hein, comme on a effectivement la protection du RGPD, comme tu présentais au départ, on pourrait imaginer une intelligence artificielle qui ne se fonderait que, qui n'utiliserait que des œuvres sous licence libre ou voilà, dans le domaine public, par exemple.
C'est exact. Après, rien ne peut prouver que l'IA ne s'est pas entraînée sur des œuvres non libres, puisqu'il faudrait réentraîner l'intelligence artificielle avec toutes les données qu'elle a utilisées pour prouver que le modèle est bien le même. Donc c'est inconcevable, c'est impossible.
Oui, on ne peut pas retourner aux sources directement. Et tu vois, Lucas qui enchaîne en se demandant si on limite les données accessibles aux intelligences artificielles, ne risquerions-nous pas de limiter l'avancée ou les possibilités de l'intelligence artificielle elle-même ? Alors, c'est une grande question. Hein. Je veux pas vous avez... Si Antoine, tu veux ajouter quelque chose à ce propos ?
Effectivement, ça c'est une grande question. Et du coup, on pourrait se poser la question sur... l'éthique, ça pourrait aller même jusqu'à l'éthique de l'intelligence artificielle parce qu'en fait, on ne peut pas ouvrir le champ, bien qu'avec les nouvelles technologies, on veut bien avoir des trucs, ça peut résoudre beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui, mais on ne peut pas genre, ouvrir le champ à l'intelligence artificielle. Je sais par exemple, à partir des journaux que j'ai vus ces derniers temps, que même le créateur le directeur de OpenAI qui limite l'accès à l'intelligence artificielle, il dit que selon lui, l'intelligence artificielle, il faut qu'on ait des normes internationales pour gérer, comment dirais-je, notre avancée des technologies, qu'il ne faut pas qu'on va vite et très très vite vers l'intelligence artificielle. Avec l'expansion de l'intelligence artificielle, et ça peut dérégler certains problèmes genre qu'on a actuellement dans nos vies, c'est ça.
D'accord, merci Antoine. Donc effectivement, ne pas attendre pour faire de la régulation, mais vous nous avez bien expliqué tous les deux que c'était des projets en cours à l'échelle de l'Europe. Alors Arthur, c'est à toi, tu vas clôturer cette intervention, votre intervention, en nous parlant eh bien, de la désinformation qui peut avoir lieu, qui peut émerger de ces outils-là. Arthur, si tu es prêt, c'est à toi.
En effet, la conservation et le traitement des données ne sont pas les seuls problèmes que nous pouvons rencontrer avec les IA génératives. Aujourd'hui, nos façons de communiquer et de s'informer évoluent, nos communications se digitalisent et nous informons de plus en plus via les réseaux sociaux. Selon plusieurs études menées, ce sont les 18-24 ans qui sont le plus à même de s'informer sur des plateformes comme Twitter, Instagram ou YouTube. Pourtant, un phénomène se répand sur la toile, c'est les infox. C'est des fausses informations relayées sans vérification par des milliers de personnes. En effet, selon une étude menée par Digimind, une société d'analyse sur des chiffres sur les réseaux sociaux, qui date de 2021, un Français sur deux y fait face au moins une fois par semaine. De plus, selon cette même étude, 20% des fausses informations sur le Covid-19 ont été relayées par des personnalités publiques et 70% ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Selon une deuxième étude sur la présence des infox sur les réseaux sociaux menée par France Info en 2018, plus de 35 millions de fake news ont été relayées sur Twitter. Et en 2022, 23% des images politiques sont des fake news sur Facebook. Une grande partie de ces infox proviennent du deepfake. Ce sont des contenus multimédia créés et générés par des intelligences artificielles génératives. En effet, en parallèle de l'explosion des fake news sur les réseaux sociaux, les IA deviennent de plus en plus accessibles au grand public. Nous pouvons donc tous utiliser comme des outils comme ChatGPT ou Midjourney Bot sur nos ordinateurs ou téléphones. Certains de ces derniers nous permettent facilement de créer des images de toutes pièces de façon très réaliste. Nous pouvons prendre les exemples du pape en doudoune ou encore du président Macron en éboueur qui ont fait le tour du web dernièrement. Ces images ont été créées par des IA. Ici, les images ont pour but de faire rire et non pas pour objectif de nuire. Mais dans d'autres cas, comme en Ukraine, ces images et vidéos générées artificiellement sont utilisées afin de nuire à l'image de personnes importantes comme par exemple Volodymyr Zelensky ou encore désinformer en Russie, un peu à l'image de la propagande. Ici, nous voyons un aspect négatif de la diffusion et de rendre accessibles les IA à tout le monde. Mais est-ce que ce phénomène a-t-il toujours existé ?
Quand les intelligences artificielles génèrent des fake news, un président éboueur, un pape fashionista ou encore un Jésus anachronique, les intelligences artificielles commencent à générer des images plus vraies que nature et c'est bluffant. Surtout lorsque la commu s'amuse à détourner des politiques et autres figures publiques dans des contextes toujours plus improbables. Enfin, ça dépend. Aujourd'hui, on peut toujours déceler quelques défauts ça et là, mais qu'en est-il de demain ? Entre deepfake, génération d'images et deep voice, c'est la porte ouverte aux fake news. Mais on n'a pas attendu le développement d'algorithmes ultra sophistiqués pour parodier l'actualité. Un des exemples les plus connus est cette poire caricaturant le roi Louis-Philippe qui a donné lieu à un célèbre procès, un cas d'école de défense de la liberté d'expression. Sauf qu'un dessin, ça ne brouille pas les pistes entre le vrai et le faux, on le sait que c'est fake. Regardez, on fait bien la différence entre cette poire et... Ah, c'est pas toujours évident. Armés de ces IA génératives, nous voilà en plein dans cette zone grise entre réalité et fiction, nous permettant de raconter les réalités alternatives les plus folles avec comme seule limite notre imagination. La guerre des images ne fait que commencer.
Comme vous avez pu l'entendre dans cet extrait audio d'une vidéo YouTube de Topito, le phénomène des fake news n'est pas nouveau. Ce qui donne une nouvelle dimension à ce phénomène, c'est son caractère hyper réaliste. En effet, contrairement aux dessins caricaturaux de l'époque, ici, le contenu créé est tiré de vraies images, audio ou vidéo. Il est donc facile de se mépendre entre le deepfake et le vrai. Mais il existe tout de même de nombreux moyens de déceler le vrai du faux. En effet, les IA génératives sont très performantes, mais certains problèmes persistent. Par exemple, elles ont du mal à reproduire certaines parties de l'anatomie humaine, comme les mains. Donc si une image vous paraît suspecte, comptez le nombre de doigts ou bien regardez si la personne n'a pas deux mains droites. Les IA ne sont pas au point non plus en ce qui concerne la génération des textes sur des images. Il suffit alors de repérer des textes illisibles, incohérents ou contenant des fautes. De plus, selon la signalisation environnante, vous pouvez déceler des erreurs dans le contexte des photos. Par exemple, une image prétendument capturée à Paris, avec une entrée de métro londonienne en fond. En ce qui concerne le décor, souvent, dans le cas d'images générées, les objets sont déformés. Un point de plus pour vérifier la véracité d'une image. Enfin, nous pouvons vérifier la présence de filigrane ou encore vérifier d'où provient l'image avec l'outil de recherche inversé. Néanmoins, on ne peut toujours pas se fier aux outils de détection d'images générées. En effet, ces logiciels deviennent de moins en moins performants face aux logiciels de génération d'images qui prennent le dessus. Enfin, en ce qui concerne les fichiers contenant du son, nous pouvons repérer des décalages son-image ou bien des mouvements de bouche incohérents. Maintenant, vous avez les clés en main pour ne plus vous faire tromper par des images générées et donc combattre les infox et la désinformation sur les réseaux sociaux. En conclusion, l'avènement des IA génératives dans notre société va la modifier considérablement. En effet, nous ne sommes qu'aux prémices des IA dans le domaine public et nous devons déjà faire face à de nombreux défis, que ce soit sur le point de vue juridique ou éthique. Nous pouvons donc imaginer le futur et le développement des IA génératives dans les années à venir. Jusqu'à où cet outil nous mènera? Devrons-nous nous adapter à elles ou les adapter à notre société?
Merci Arthur. Alors, vous nous avez fait un portrait là, entre les questions, voilà, les problématiques de désinformation, de protection des données personnelles et puis la protection du droit d'auteur hein, qui émerge avec ces intelligences artificielles génératives. Là, effectivement, ça nous fait poser beaucoup de grandes questions. Hein. Et puis là, tu termines, Arthur, avec voilà, des grandes questions sur que va devenir notre société avec ces outils-là, maintenant qu'ils existent et que tout le monde les utilise. Alors voilà, on a des autres types de grandes questions. Et Nina, par exemple, qui se demandait si les métiers artistiques ont encore un avenir. Alors, puisque tu expliquais bien hein, que ces outils permettent de générer des images à la fois très réalistes et puis aussi voilà, qui nous montrent différents styles de graphiques, par exemple. Et donc, voilà, il y a, et là je rejoins une question d'Aeva qui se dit aussi, voilà, avec l'émergence de ces IA génératives, il y a des personnes qui préfèrent avoir recours à ces outils-là, puisque c'est gratuit, on peut les utiliser gratuitement, plutôt qu'à des vrais artistes pour, par exemple, créer des logos ou autre création. Et donc, voilà, ça peut participer à une forme de panique hein, vis-à-vis de ces outils. Et donc, c'est pour ça que, même si ce sont des questions tout à fait légitimes, ce genre de discussion que vous ouvrez, messieurs, c'est important de les avoir pour se rendre compte et bien concrètement de ce que l'on peut faire avec ces outils. Alors, dans cette situation-là, donc, hein, quand on a plusieurs des gens qui vont utiliser plutôt les intelligences artificielles génératives plutôt que de faire appel à des artistes, comme l'évoque ici Aeva, est-ce qu'il y a des projets de loi, des formes de régulation pour, eh bien, pour essayer de protéger, de favoriser plutôt les artistes, les graphistes humains face à l'utilisation de plus en plus courante peut-être de ces outils pour créer des œuvres, pour voilà, faire du graphisme, etc. Tu nous as parlé, Antoine, de loi plutôt pour protéger les données face à l'utilisation possible pour alimenter des intelligences artificielles génératives. Mais voilà, est-ce qu'il existe aussi des projets de réglementation, de loi pour protéger aussi les artistes, plutôt dans le sens de protéger le métier de créateur en soi?
Pour moi, ce qu'a présenté Antoine en début, donc sur la protection des droits d'auteur, va dans ce sens. Dans le sens où les IA génératives se servent de contenus déjà existants. Donc en protégeant les œuvres originelles dont se servent les IA génératives pour créer de nouvelles œuvres, pour moi les métiers artistiques vont perdurer parce que sans ces nouveaux contenus proposés par des artistes, que ce soit des contenus audio, vidéo ou du dessin, de la peinture, si ces contenus ne peuvent pas intégrer les connaissances des IA génératives, aucun nouveau contenu pourra être créé, ce sera toujours le même style de contenu qui sera créé. Et donc, en protégeant les droits d'auteur, on va donc ainsi protéger les œuvres des artistes qui seront potentiellement utilisées plus tard dans les IA génératives.
D'accord, merci Arthur. Oui. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, je voulais rajouter aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'intelligence artificielle dérive toujours de l'humain et que l'œuvre la l'œuvre célèbre créée par une intelligence artificielle vendue en 2018 à New York est un exemple. Genre, même s'il a été vendu à 400 000 euros à New York aux enchères chez Christie's, je veux dire. Mais depuis là, on n'a pas eu d'autres œuvres créées par une intelligence artificielle vendues à ce prix. Et du coup, les gens se sont lassés. Les gens, même l'industrie de la création artistique, c'est que on peut pas, c'est pas au niveau de l'art humain en fait. Et du coup, je pense que l'œuvre, la création humaine va toujours perdurer et c'est bien.
Et c'est bien. Oui, effectivement. C'est bien. Mais tu fais bien de rappeler aussi la part de responsabilité humaine dans la création de ces outils-là. Au fond, ce sont toujours voilà, des développeurs humains qui travaillent là-dessus. Et ça permet effectivement aussi de toujours garder cette part de responsabilité sur ces outils et de ne pas s'en décharger. Oui, alors voilà. Est-ce qu'on a la place pour une autre question? L'IA qui se demande, pour limiter les débordements, restreindre l'anonymat des images produites par les intelligences artificielles générative pourrait être une solution. Par exemple, faire apparaître un pseudo. Et oui, une piste d'avoir une forme de signature. Hein, mais tu parlais de filigrane. Je sais que vous avez parlé de... Voilà, il y a plusieurs options.
C'est ça, pour repérer quelles images sont générées. Souvent, nous pouvons repérer des filigranes en bas de l'image ou sur certains... après avoir essayé, sur certains outils de génération d'images, apparaît en bas le nom de l'outil de génération ou certains, certains aspects qui sont reconnaissables de cette IA générative-là.
D'accord, entendu. Merci Arthur. Bien, écoutez, tous les trois, je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Bravo à tous les trois pour votre présentation, pour votre travail. On pourra réécouter votre intervention donc sur graphite.net, alors chercher dans les podcasts et puis plus tard sur l'instance Peertube à Peri.tube sur la chaîne WE1. Si le cours en lui-même vous intéresse, eh bien venez faire un tour sur librecours.net et venez discuter avec nous, si vous le souhaitez, avec les étudiants sur team.picasoft.net. .net, équipe WE. Encore une fois, merci à tous les trois pour votre travail.
Oui, merci.
Merci.
Merci à Graphite aussi pour l'accueil de ce format d'émission. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi à Compiègne ou ailleurs. Et puis, à la semaine prochaine.